la paix. Il est 18h.
La fréquence de la paix. Yo, mais c'est. Oh, la dame, monsieur. Yaga, yo. Blaze up the fire, could never stop at the wire. Yo, mais c'est. La paix ensemble, c'est possible maintenant. L'amour, le pardon, nous le devons à nos enfants. Nous allons effacer les erreurs du passé. Il y a tellement de bonnes choses à partager. La paix ensemble.
Journal de 18h. Linda Christelle Ballier.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio de la Paix pour cette dernière édition de ce mercredi 7 juin 2023. Il y a eu Conseil des ministres ce 7 juin et parmi les décisions prises, il est désormais demandé au commissaire de justice d'apposer un sticker sur les actes qu'ils produisent, a fait savoir le porte-parole du gouvernement Amadou Coulibaly. Nous parlerons également dans ce journal de l'ouverture officielle le 1er juin dernier du Japan Corner, un centre pour la promotion de la langue et des études japonaises à l'université Félix Foy-Boigny de Cocody. Jean-Claude Mabeya nous fera le point de cette cérémonie. Et puis au Sénégal, après les heurts la semaine dernière, des responsables de l'opposition appellent au calme et interpellent le chef de l'État, Macky Sall. Conseil des ministres de ce mercredi 7 juin 2023, la position de sticker par les commissaires de justice sur les actes qu'ils produisent, l'extension des activités de la SOTRA et la réglementation de la profession boulangère sont entre autres quelques mesures adoptées. Carlos Condé nous offre son compte-rendu de cette session de ce conseil.
Il est désormais fait obligation aux commissaires de justice d'apposer un timbre sticker sur les documents qu'ils produisent. Des précisions avec Amadou Coulibaly, le porte-parole du gouvernement.
Cette mesure vise à assurer la sécurité ainsi que la traçabilité des actes du commissaire de justice de façon à prémunir le système judiciaire et les justiciables contre les risques de production et de circulation de faux actes publics.
Un ensemble de produits immobiliers situés à Marcory, zone 4C, appartenant à la SOTRA, sera cédé pour 7,9 milliards de francs CFA.
En effet, la société prévoit l'acquisition de sites pour la construction de nouvelles gares lagunaires et terrestres, ainsi que de nouveaux centres bus et terminus dans la zone de Benjerville, d'Anyama et de Sogon, en vue de consolider ses activités et d'impacter davantage la qualité de la mobilité urbaine dans le district d'Abidjan.
Le Conseil a également pris un décret pour réglementer l'ouverture et la fermeture de boulangeries dans le pays afin d'obtenir une bonne qualité de pain.
Ce décret précise les différentes spécifications techniques relatives à la qualité du pain et définit les mesures d'hygiène qui pèsent sur les professionnels du secteur, notamment ceux intervenant dans la vente et la distribution des produits de boulangerie. Aussi, il prévoit un organe chargé de la régulation du secteur.
À noter que la Côte d'Ivoire va avoir un nouveau nonce apostolique. Il s'agit de Monseigneur Mauricio Redabels.
Et puis l'ONG Verte veut réunir les moyens de la lutte contre le travail forcé, la traite des êtres humains. L'atelier de renforcement des capacités des députés sur les indicateurs de ces fléaux, organisé ce mercredi 7 juin à Abidjan, répond à cet objectif. À cette occasion, Touré Yacouba, vice-président de l'Assemblée nationale, a promis la contribution de la Chambre basse du Parlement ivoirien dans ce combat pour le respect de la dignité humaine au travail. Nous l'écoutons.
Notre mobilisation aujourd'hui est la marque de notre appui aux initiatives nationales en vue de créer un monde meilleur pour l'équilibre des populations. La représentation nationale ne se dérobera pas. Elle jouera pleinement le rôle qui lui est sien. En effet, la Côte d'Ivoire, en ratifiant en novembre 2019 le protocole de 2014 relatif à la convention numéro 29 sur le travail forcé, a renouvelé son engagement envers les normes internationales du travail pour lutter lutter de façon effective contre toute forme de travail forcé ou obligatoire. C'est dire que l'Assemblée nationale saura accompagner tout esprit qui œuvre pour l'équité et le respect de la vie humaine. Il est sans ignorer que les droits de l'homme sont constamment bafoués dans le milieu du travail et ce, dans de nombreux pays. Très souvent, ces abus sont restés impunis du fait de l'ignorance des populations de leurs droits élémentaires. Cet atelier est assurément le canal idéal par lequel les députés pourront aider l'ONG Vérité en tant qu'organisation à parvenir à un monde où le milieu du travail est dépourvu de toute forme d'injustice.
Touré Yacouba, vice-président de l'Assemblée nationale, dans des propos recueillis par Junior Cardin. Et puis le Sénat ivoirien était réuni hier mardi à Yamoussoukro en séance plénière pour renouveler d'une part son bureau et puis d'autre part pour délibérer sur 17 projets de loi. Et si ces projets de loi ont tous été adoptés sans grande difficulté, il n'en demeure pas moins que celui portant statut de réfugié a suscité des débats et commentaires de la part des sénateurs. On fait le point avec Émile Yaou.
Avec 83 voix pour, 2 contre et 1 abstention, le projet de loi portant statut de réfugié a été le seul sur 17 à ne pas être adopté à l'unanimité des 86 sénateurs présents sur les 97 que compte l'institution. Son adoption a au contraire suscité bien de préoccupations, comme celle exprimée ici par Yaou Kouma Moïse du Gontougo.
Nous qui sommes de l'Est ivoirien, nous savons très bien ce qui se passe. Et notre inquiétude est grande, d'autant que en fixant les gens au sol, on fait deux, ni moins ni plus, des permanents et demain des Ivoiriens qui ont leur carte nationale d'identité.
Une préoccupation également partagée par la sénatrice Dao Gabala.
Pour ma part, ça a l'air d'être une première mondiale. Je me pose aussi des questions. Est-ce qu'il y a eu des actions pour amoindrir le ressentiment des habitants de la zone d'accueil qui pourraient voir aux réfugiés des personnes qui sont plus prises en compte qu'elles-mêmes?
Le sénateur Adido Adida lui dit être tout simplement inquiet.
Je suis beaucoup inquiet. Le problème foncier, c'est vrai, la loi a été votée, mais c'est pas encore aplani. Et dans une zone où il y a ce genre de problème, on va construire des logements. Est-ce que la cohabitation sera bonne? À mon avis, c'est exagéré.
En réponse à ces réactions, le président du Sénat ivoirien, Aoussou Kouadio-Jeannot, a plutôt relevé le caractère humanitaire de l'action du gouvernement.
À l'intérieur du Burkina, il y a près de 3000 réfugiés. On construit les bâtiments pour les accueillir. Bon, nous sommes au pays de l'hospitalité. Je pense qu'on doit être fiers.
Outre l'adoption d'un projet de loi, le Sénat ivoirien a également renouvelé son bureau. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
Dans le cadre du processus électoral, le superviseur des régions du Boklé, Nawa et San Pedro a échangé avec les populations de San Pedro et de Tabou le 31 mai dernier à San Pedro. Objectif de cette rencontre, présenter la liste électorale provisoire de 2023 pour des éventuelles observations et réclamations. Les détails avec Kofi Benson, notre correspondant dans le Bas-Sassandra.
La présentation de la liste électorale provisoire, une étape du processus électoral. Une liste électorale provisoire présentée par Marguerite Yolibikone, superviseur de la Commission électorale indépendante CEI du district du Bas-Sassandra.
L'objectif, c'était de présenter la liste électorale provisoire. Pour la région de San Pedro, nous avons un total de 192 440 inscrits sur la liste électorale provisoire et 20 radiations pour perte des droits civiques et politiques et 625 pour cause de décès. Nos guichets sont ouverts pour recueillir les réclamations sur 10 jours. Ensuite, les observations sur ces réclamations sur 10 jours. Tout cela sera affiché. La commission électorale travaille dans la transparence et dans le cadre légal.
Une occasion pour Marguerite Yolibikone d'attirer l'attention des partis politiques sur leur contribution pour le bon déroulement des élections.
On a interpellé particulièrement les partis politiques parce que c'est eux qui ont intérêt à ce que la liste électorale soit propre, soit consensuelle et comporte ce qui doivent y être. Le contribuable ivoirien leur donne de l'argent pour ça, c'est-à-dire d'informer leurs militants pour qu'il n'y ait pas de désinformation. Parce que tout commence par la liste électorale, tout se termine par la liste électorale. C'est là la campagne. Ce n'est pas le jour où on a dit la campagne est ouverte pour une semaine qu'ils vont commencer à courir. C'est maintenant. Il faut faire en sorte que vous ayez vos électeurs sur la liste électorale.
Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
La coopération ivoiro-japonaise se porte très bien, à preuve, le Centre pour la promotion de la langue et des études japonaises à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, ou Japan Corner, a été ouvert officiellement le 1er juin dernier. Il s'agit ainsi de lancer le démarrage des activités de ce centre, et cela a été marqué par une cérémonie présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en présence de l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire. Témoin de cette cérémonie pour le compte de Radio de la Paix, Jean-Claude Mabéa.
Pourquoi ce centre et quel intérêt pour la Côte d'Ivoire? La réponse avec le directeur de la CAPEC, la cellule d'analyse de politique économique du CIRES, professeur Alban Aouré.
On remarque bien dans les données que l'un des obstacles majeurs à l'implantation des entreprises japonaises en Afrique, c'est les barrières linguistiques, les barrières de communication. Et ça se place au troisième niveau des obstacles. Comment lever ces barrières-là? C'est de créer une circonstance d'apprentissage de la langue, d'apprentissage de la culture pour pouvoir s'ouvrir, pour pouvoir communiquer. Et c'est ce cadre-là que nous avons voulu offrir aux étudiants, aux chercheurs, aux universités, mais en même temps au monde du secteur de l'entrepreneuriat pour apprendre davantage et développer leur coopération avec des entreprises ou avec la société japonaise.
L'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire, Ikatai Katsuya, qui s'est félicité de la réalisation de ce projet, a émis le vœu suivant.
J'espère que ce centre deviendra un lieu de manifestation, lieu d'animation, et même lieu d'étude sur le Japon.
Aux bénéficiaires de ce centre, le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Kobea Arsène, a dit ceci.
Le Japon est un pays très développé duquel nous devons beaucoup apprendre dans le domaine scientifique et technologique, surtout dans le domaine de l'innovation. Donc, aux jeunes étudiants, sensibilisation pour qu'ils viennent fréquenter le Japan Corner.
Ce centre premier du genre en Afrique de l'Ouest a été réalisé et équipé à un peu plus de 50 millions de francs CFA.
Un mot d'agriculture, filière coton notamment. Dans certaines zones de production, les propriétaires terriens confisquent les ristournes des paysans, dont quelques-uns sont même déguerpis des terres cultivables. L'information a été donnée par le président de la Fédération des unions des sociétés coopératives de la filière de coton de Côte d'Ivoire. C'était à Boaké à l'occasion de l'atelier bilan 2022-2023 du système d'identification des producteurs et de traçabilité de la production du coton. Pour en savoir un peu plus, retrouvons Joseph Assalé, notre correspondant dans le Gweke.
Au titre de la campagne agricole 2022-2023, la moisson n'a pas été abondante pour les producteurs de coton qui ont enregistré une baisse de 52% de leur production, estimée à 230 000 tonnes. Des insectes ravageurs appelés jacides sont à l'origine de cette chute cotonnière. En plus, d'autres difficultés ont émaillé la filière. Silué Kassoum, président de la Fédération des unions des sociétés coopératives de coton de Côte d'Ivoire.
La ristourne et les excédents qui permettent aux sociétés coopératives de fonctionner sont retenus par ces chefs, ces propriétaires terriens. Ce n'est pas normal quand même que le fruit de leur ristourne soit retenu par le propriétaire terrien, ça démotive. Et là où ce n'est pas payé, les propriétaires terriens font de cela des surenchères.
Il y a plus inquiétant encore.
Les propriétaires terriens ont demandé aux producteurs d'abandonner leur superficie et leur arracher à la limite cette superficie-là. Ils chassent les producteurs et ils sont obligés de migrer pour aller encore à la recherche de terre. Ce sont des phénomènes qui sont récurrents, surtout dans la zone de Mankono, Voivoi et Boafle.
Toutefois, les perspectives sont porteuses d'espoir, rassure le président de l'Intercoton, Soro Moussa.
Nous avons espoir et nous avons dit aux producteurs aussi d'avoir espoir, d'avoir confiance aux chercheurs et à l'État.
Des réflexions sont en cours pour repositionner la filière cotonnière selon des responsables. Joseph Assalé, Boaké, Radio de la Paix.
Le programme national de prise en charge des orphelins et enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida est à la recherche d'1 milliard de francs CFA. Cette somme devrait servir à prendre en charge environ 476 000 personnes souffrant de cette pandémie. C'est d'ailleurs ce qui justifie l'organisation de la deuxième édition du dîner gala caritatif de plaidoyer et de mobilisation de ressources auprès des pouvoirs publics, des partenaires et de toute la population ivoirienne. Plus de détails avec Kofi, avec Dr Kwasi Flore Lago. Elle est directrice coordonnatrice du programme national de prise en charge des orphelins et enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida.
Depuis 2003, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place un programme destiné spécifiquement à la prise en charge des enfants et orphelins vivant avec ce fléau. Mais il faut dire qu'à ce jour, nous avons environ 476 000 orphelins adolescents vulnérables qui sont dans l'attente d'accompagnement, de prise en charge. Parmi ces 476 000, nous avons environ 182 000 qui sont pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire avec ses différents partenaires. Alors, le gap qui reste à être comblé mérite d'être trouvé en matière de ressources. Et faire en sorte que ces enfants, à l'horizon 2030, on ne puisse plus parler de VIH-Sida pédiatrique. C'est 1 milliard que nous mobilisons, mais 1 milliard ne suffit pas pour ce gap. Mais 1 milliard, ça va contribuer donc à accompagner 256 enfants et orphelins, à parrainer 1000 enfants, parce qu'un enfant, ça fait 20 000 francs par mois en termes de prise en charge pour les 8 services qui sont offerts. 1 milliard, ça va contribuer donc à assurer la scolarité de son enfant, à assurer les familles de 20 associations villageoises de panier de crédit pour leur permettre de bien prendre en charge leurs enfants.
Docteur Kwesi Flore Lago, à l'instant, est la directrice coordonnatrice du programme national de prise en charge des orphelins et enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida. Notons que la cérémonie prévue le samedi 10 juin prochain à Cocody est placée sous le haut patronage de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Une page de religion dans ce journal avec l'édition 2023 du Hajj, c'est-à-dire le pèlerinage en terre sainte de l'islam. Cette année, ce sont 10 000 candidats pèlerins qui partiront de la Côte d'Ivoire. Le premier vol charter du contingent étatique quitte Abidjan ce mercredi soir à 21h40 avec à son bord 430 passagers. Confirmation donnée à Radio de la Paix par le commissaire du Hajj, l'imam Bachir Ouattara, qui rassure les parents quant à l'attention portée aux candidats pèlerins lors de ce pèlerinage. Nous l'écoutons.
L'appel que nous lançons aux uns aux autres, c'est pour dire aux candidats au Hajj et de leurs parents d'être rassurés, d'être confiants que les candidats sont dans de bonnes mains. Nous leur demandons que lorsqu'ils viennent accompagner le pèlerin à l'entrée de la mosquée de la Rivière Golf, une fois que le pèlerin dépasse la barrière de sécurité, qu'il se retourne, qu'il rentre chez eux, le pèlerin est pris en charge par nos différentes commissions qui sont sur place et on fera tout ce qu'il y a à faire jusqu'à ce qu'il monte dans l'avion pour partir en Arabie Saoudite. Pour le Hajj 2023, le vol inaugural, le premier vol commence aujourd'hui avec 430 pèlerins et le vol est programmé décoller à 21h40. Il plaît à Dieu, 21h40. Nous avons 15 vols pour les vols charter du contingent étatique.
Et en tout, combien de pèlerins quitteront la terre de Côte d'Ivoire pour la Terre Sainte?
On a 10 000 qui vont partir, mais pour le contingent étatique, nous avons 7 000. 7 000, il y a 6 000 écoles qui iront sur les vols charter et les autres voyageront par les vols commerciaux.
Nous écoutions l'imam Bachir Ouattara, commissaire du Hajj 2023. Il a été joint par Soro Adams. Dans l'actualité au Sénégal, c'est toujours l'accalmie après les violences qui ont éclaté la semaine dernière dans la foulée de la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme. Et si ni le président sénégalais Macky Sall ni l'opposant Ousmane Sonko ne se sont exprimés sur ces heures, dans l'opposition, les responsables appellent au calme et interpellent le chef de l'État, Khalifa Sall, candidat déclaré à l'élection prévue en 2024, mais pour l'heure inéligible, déplore des événements désastreux. Pour l'ancien maire de Dakar, le chef de l'État doit prendre de la hauteur et selon l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, qui a quitté la coalition au pouvoir en avril dernier, la situation ne fera qu'empirer si le président Macky Sall annonce une candidature à un troisième mandat. Il appelle donc celui-ci à trancher le débat. Et même son de cloche du côté du Qatar où exilé Karim Wade a dans un message ce lundi 7 juin appelé à la responsabilité de toutes les classes politiques et à la retenue sans évoquer le débat sur le troisième mandat. Et puis génocide au Rwanda, il n'y aura pas de procès devant le tribunal de La Haye sur le Rwanda pour Félicien Kabuga. Le procès qui avait commencé en septembre 2022 devant le mécanisme de l'ONU chargé de juger les dernières affaires du tribunal pénal international pour le Rwanda avant d'être suspendu. Eh bien, le tribunal voulait étudier l'état de santé mentale de celui-ci qui est considéré comme le financier présumé du génocide du Rwanda en 1994. Les juges ont tranché. Félicien Kabuga est inapte à subir son procès. Il est peu probable qu'il retrouve ses capacités physiques. Les deux psychiatres et le neurologue ont posé un diagnostic de démence d'origine vasculaire, rapporte Radio France Internationale. Et c'est la fin de ce journal, le rappel des titres à présent. Il y a eu Conseil des ministres ce 7 juin et parmi les décisions prises, il est désormais demandé au commissaire de justice d'apposer un sticker sur les actes qu'ils produisent, a fait savoir le porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly. Et puis il a été également question de l'ouverture officielle le 1er juin dernier du Japan Corner, un centre pour la promotion de la langue et les études japonaises à l'université Félix Houphouët-Boigny, nous a appris Jean-Claude Mabille. Au Sénégal, après les heurts de la semaine dernière, les responsables de l'opposition appellent au calme et interpellent le chef de l'État, Macky Sall. Merci à vous d'avoir été des nôtres pour ce 18h. L'actualité revient sur Radio de la Paix dès 7h demain.
Radio de la Paix, l'info juste et sans passion.